Chapitre 30. Emma continuait à se croire amoureuse, ses idées variaient seulement du plus au moins. D'abord, elle crut qu'elle l'aimait beaucoup, et ensuite très peu. Elle prenait un sensible plaisir à entendre parler de Frank Churchill, et par rapport à lui, voir Monsieur et Madame Weston. Elle pensait souvent à lui, attendait une lettre avec une extrême impatience, afin de savoir comment il se portait, s'il était encore abattu, si la santé de sa tante était rétablie, et enfin, s'il y avait quelque espoir qu'il revînt à Randalls ce printemps. Mais de notre côté, elle ne se trouvait pas malheureuse, et après le premier jour, elle reprit ses occupations ordinaires avec autant de plaisir qu'auparavant. Elle était enjouée, et quoique le jeune homme lui plût, elle lui trouvait des défauts. Malgré qu'elle pensât tant à lui, soit lorsqu'elle travaillait à l'aiguille, soit lorsqu'elle dessinait, formant d'agréables projets d'attachement, imaginant d'intéressants dialogues, inventant des lettres passionnées. Cependant, quand une déclaration formelle de sa part se présentait à sa pensée, le résultat était qu'elle le refusait. Cette affection chez eux devait dégénérer en amitié. Ils se serviraient des expressions les plus tendres en se quittant, mais enfin, ils devaient se séparer. En faisant ces réflexions, elle sentit qu'elle n'était pas si fortement éprise de lui qu'elle l'avait cru, car malgré la résolution formelle qu'elle avait prise de ne jamais se séparer de son père et de ne jamais se marier, un violent attachement devait produire de plus grands combats que ses sentiments ne lui en faisaient craindre. « Je ne vois pas, disait-elle, que j'ai besoin de me servir du mot « sacrifice ». Dans aucune de mes spirituelles réparties, de mes délicates négatives, ai-je jamais parlé de faire un sacrifice ? Je ne crois pas qu'il soit absolument nécessaire à mon bonheur. Tant mieux, mon intention n'est certainement pas de me persuader à moi-même que je sente plus que je ne fais. J'ai assez d'amour, je serais très fâchée d'en avoir davantage. » À tout prendre, elle était également satisfaite des sentiments qu'elle lui supposait. « Il est certainement très amoureux, tout le prouve. Oui, il est très amoureux. Et lorsqu'il reviendra, s'il continue à l'être, il faudra que je prenne bien garde à ne pas lui donner d'encouragement. Il ne serait pas excusable d'en agir autrement, puisque je sais à quoi m'en tenir. Ce n'est pas que je crois qu'il se soit imaginé que je lui en ai déjà donné. Non, s'il eût pensé que je partageais ses sentiments, il n'eût pas été si malheureux. Et à son départ, son langage et ses regards eussent été bien différents. Cependant, je dois me tenir sur mes gardes, c'est-à-dire en supposant qu'il continue à m'aimer. Mais je ne m'y attends pas, je ne compte guère sur sa constance, il n'est pas homme à la fidélité duquel on puisse se fier. Il a le cœur chaud, mais porté au changement. Plus j'y réfléchis, plus je me trouve heureuse de ce que mon affection ne soit pas plus violente. Dans peu, je serai de nouveau tranquille, et ce sera une grande crise de passé. Car on dit qu'il faut aimer une fois dans sa vie, et je m'en serai tirée à bon marché. » Aussitôt qu'il fut parvenu une lettre de lui à Randalls, elle fut envoyée à Emma. Elle la lut avec tant de plaisir qu'en secouant la tête, elle crut n'avoir pas rendu justice aux sentiments qu'elle avait pour lui. Cette lettre était longue et bien écrite, donnait des détails de son voyage et de ses sensations. Il exprimait sa reconnaissance et son affection de la manière la plus polie. Il faisait la description des localités avec exactitude et précision, n'oubliant rien de ce qui pouvait mériter quelque attention. Quant à Madame Weston, il lui rendait toute la justice qu'elle méritait, et les louanges qu'il lui donnait avaient l'apparence de partir du cœur. Sa translation subite d'Highbury à Enscombe, la différence des jouissances de la vie sociale dans ces deux places était assez bien décrite pour persuader qu'il les sentait et que, sans des raisons de bienséance, il eût pu en dire davantage. Dans plusieurs endroits, le nom de Mademoiselle Woodhouse était tracé et jamais sans être suivi de quelques compliments gracieux sur son bon goût ou sur ce qu'elle avait fait ou dit. Et la dernière fois qu'elle l'y vit, quoiqu'il n'y eut rien de bien galant à sa suite, il fit néanmoins plus de sensation sur son cœur, parce qu'il faisait mention de l'influence qu'elle avait sur lui. « Je n'ai pas eu un seul instant, disait-il, pour aller prendre congé de la belle petite amie de Mademoiselle Woodhouse, je vous prie de lui en faire mes excuses. » Emma ne douta point que cela ne fût pour elle-même. Il ne se souvenait d'Henriette que parce qu'elle était son amie. Il ne disait rien d'Anscombe, ni de ses espérances, qui ne fût déjà connue. Madame Churchill se remettait, et il n'osait pas, même en idée, fixer le temps où il pourrait revenir à Randalls. Emma trouva, en pliant et en renvoyant cette lettre, quelque plaisir, quelque satisfaction, que les parties principales lui eussent causées, qu'elle n'avait rien ajouté à ce qu'elle sentait pour lui, qu'elle pourrait bien s'en passer et que, par conséquent, il était le maître de chercher fortune ailleurs. Ses résolutions n'étaient pas changées. Au contraire, elles devinrent plus vives et plus intéressantes parce qu'elles lui suggérèrent, en le refusant elle-même, un projet pour son bonheur futur et sa consolation. En se souvenant d'Henriette et la nommant la belle petite amie, il lui fit naître l'idée qu'il pourrait reporter sur Henriette l'affection qu'il avait pour elle. Était-ce impossible? Non. Henriette lui était sans doute de beaucoup inférieure en jugement, mais il avait été vivement frappé de sa beauté et de la naïveté de ses manières. Ainsi, toutes les probabilités étaient en sa faveur. Ce serait une union extrêmement avantageuse et très agréable à Henriette. « Il ne faut pas que je m'apesantisse sur cela, dit-elle. Je ne dois pas y songer. Je connais le danger de me fier à mes spéculations. » Cependant, il est arrivé des choses plus surprenantes, et lorsque M. Frank Churchill et moi cesserons d'avoir de l'amour l'un pour l'autre, ce sera le moyen de nous confirmer dans cette amitié désintéressée que j'envisage d'avance avec plaisir. Il était heureux pour Emma d'avoir des consolations en réserve pour Henriette, mais il ne fallait en user qu'avec précaution, car elle était menacée d'un grand malheur. L'arrivée de Frank Churchill avait immédiatement suivi le départ de M. Elton et l'avait remplacé dans les conversations d'Highbury. Maintenant que Frank était parti, on s'occupa de nouveau des affaires de M. Elton. On nommait le jour de son mariage. Il serait bientôt de retour, disait-on, avec la nouvelle mariée. On eut à peine le temps de parler de la première lettre d'Anscombe, tant on était occupé de M. Elton et de son épouse. Et Frank Churchill fut oublié. Le nom seul de M. Elton lui donnait des vapeurs. Elle avait eu 3 semaines de répit et espérait qu'Henriette s'était fortifiée contre lui. Les apprêts du bal de M. Weston avaient fait tout oublier, mais il paraissait qu'elle n'était pas assez bien remise pour soutenir le choc que lui causerait son retour, la vue d'une belle voiture et le son des cloches. La pauvre Henriette était si abattue qu'elle avait besoin de tous les secours, des attentions, des remontrances et de toutes les consolations qu'il était au pouvoir d'Emma de lui donner. Emma sentait qu'elle n'en pouvait trop faire et qu'Henriette avait des droits à ses soins et à sa patience. Mais il était dur pour Emma de persuader sans convaincre. Henriette écoutait avec soumission et disait « C'est très vrai, Mademoiselle Woodhouse a raison. Je ne dois pas penser à eux, je ne m'en occuperai plus. » Mais c'était en vain qu'on changeait de sujet. Un quart d'heure après, elle y revenait sans s'en apercevoir. À la fin, Emma changea de champ de bataille. « Le plus grand reproche que vous puissiez me faire, Henriette, est de vous occuper sans cesse et de regarder comme un malheur le mariage de M. Elton. Il est impossible de censurer plus amèrement l'erreur dans laquelle je suis tombée. Je sais que c'est moi qui ai tout fait. Je ne l'ai point oublié, je vous assure. Trompé moi-même, j'ai été la cause que vous l'avez été vous-même. J'en ressentirai pour la vie un mortel chagrin. Ne vous imaginez pas que je l'oublie jamais. » Henriette fut si vivement frappée de ce discours qu'elle ne put articuler que quelques mots. Emma continua. « Ce n'est pas pour moi que je vous ai dit. Henriette, montrez du courage, pensez moins à M. Elton, parlez-en moins par rapport à moi. C'est pour vous que je l'ai désiré, pour vous, à qui il importe plus que ma propre satisfaction, que vous obteniez le commandement de vous-même afin de respecter vos devoirs, d'agir suivant la bienséance, d'éviter les soupçons, de préserver votre santé et votre réputation, enfin de rétablir votre tranquillité. » Voilà les motifs qui m'ont dirigé dans mes exhortations. Il est important pour vous de les adopter. Quant à la peine que je puis avoir, c'est une considération secondaire. Je veux vous épargner de plus grands malheurs. J'ai peut-être senti quelquefois qu'Henriette ne devait pas oublier ce qui m'était dû, ou plutôt l'amitié que je me croyais en droit d'attendre d'elle. » Cet appel à ses affections fut plus efficace que toute autre chose. L'idée de manquer à la reconnaissance et à la considération qu'elle devait à Mademoiselle Woodhouse, qu'elle aimait véritablement de tout son cœur, la mit au désespoir, et lorsque sa violence fut un peu calmée, il lui en resta assez pour l'engager à se mieux conduire. « Vous, la meilleure amie que j'ai eue de ma vie, vous manquez de reconnaissance ? Personne ne vous égale en bonté. Je vous préfère à tout ce qui existe. Oh, Mademoiselle Woodhouse, que j'ai été ingrate envers vous !» De pareilles expressions, accompagnées de tout ce que pouvaient leur donner de force les yeux et le geste, firent sentir à Emma qu'elle n'avait jamais tant aimé Henriette que dans ce moment, et qu'elle n'avait jamais attaché tant de prix à l'affection qu'elle lui témoignait. « Il n'y a pas de charme égal à la tendresse de cœur, » se dit-elle en elle-même. « Un cœur tendre et chaud est de beaucoup préférable à l'esprit. Il est plus attrayant. C'est la bonté du cœur qui fait que mon cher papa est adoré de tout le monde, ainsi que ma sœur Isabelle. Je n'ai pas cette bonté, mais je l'estime et la respecte. Henriette m'est bien supérieure par le charme et la félicité que cette tendresse de cœur procure. Ma chère Henriette, je ne vous changerai pas pour la compagne la plus spirituelle, la plus instruite et la plus clairvoyante du monde. Oh, la froideur de Jeanne Fairfax ! Henriette en vaut 100 comme elle. Et pour une épouse, la femme d'un homme d'esprit, elle serait inappréciable. Je ne nomme personne, mais heureux serait l'homme qui changerait Emma pour Henriette. »